France Culture.
Le journal vous est présenté par Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Vous disiez parlementarisme, je dis journal parlementaire s'il en est. Au sénateur, le projet de loi de finances, voté dans l'après-midi, récit de Rosalie Lafarge. Aux députés, le budget des JO d'hiver qui doivent se dérouler dans les Alpes en 2030, projet de loi qui fait l'objet d'une motion de rejet, précisera Annabelle Grelier. Politique française, suite, le gouvernement renonce finalement à consulter la population calédonienne le 15 mars prochain sur l'accord de Bougival, explication de Stéphane Robert. La dermatose nodulaire contagieuse, la ministre de l'Agriculture échange en ce moment même avec les présidents des chambres d'agriculture d'Occitanie et défend sa gestion de la crise. Autre source d'inquiétude qui pèse sur les agriculteurs, éleveurs en tête, le traité commercial du Mercosur, la France perturbe les plans européens et espère ainsi obtenir un report du vote de ce texte prévu samedi au Brésil. Enfin, l'armée israélienne multiplie les opérations militaires. Les destructions en Cisjordanie occupée, des territoires jusque-là relativement calmes ont été ciblés. Que fait l'armée israélienne en Cisjordanie? C'est le dossier de cette édition. Notre correspondant au Proche-Orient, Thibault Lefebvre, s'est rendu à Toubas, l'une des zones les plus fertiles de Cisjordanie. Après 2 semaines de débats, jour et nuit, le Sénat a donc adopté le budget de l'État, soumise au vote cet après-midi. La version initiale proposée par le gouvernement est largement remaniée par la majorité de droite et du centre. Une séance au Sénat que vous avez suivie, Rosalie Lafarge, et ce n'est que la première herse d'une course d'obstacles pour Matignon.
L'enjeu n'est pas le vote du jour, mais l'accord à trouver demain, résume François Patriat, le président du groupe macroniste au Sénat.
Ce budget est loin d'être idéal. Mais dans quelques jours, il nous faudra converger vers un texte qui ne conviendra parfaitement à personne et que chacun pourra voter pour l'intérêt supérieur du pays. Les grands débats de société seront tranchés en 2027. Cessons les postures politiques stériles, ces grandes lignes rouges soi-disant indépassables. Le compromis, c'est maintenant.
Mais ces lignes rouges, certains les tracent déjà à quelques jours de la commission mixte paritaire, la CMP. 7 députés, 7 sénateurs qui devront tenter de se mettre d'accord en fin de semaine. La droite sénatoriale, bien représentée dans cette CMP, n'ira pas au compromis à n'importe quel prix, lance la sénatrice LR Christine Lavarde.
Nous ne pourrons pas apporter nos voix à une CMP qui viendrait mettre trop fortement à contribution les collectivités locales. Une CMP qui viendrait augmenter la pression fiscale. Une CMP qui n'engagerait pas les réformes nécessaires de l'action publique. Être responsable, c'est refuser l'impôt. Réformer plutôt que taxer, voilà ce que signifie gouverner.
Les deux ministres au banc, celle des comptes publics Amélie de Montchalin et celui de l'économie Roland Lescure, sont prévenus mais restent publiquement optimistes.
L'instabilité a un prix. La stabilité en a un aussi. Celui d'abord et avant tout de croire au compromis. Je le crois possible, je le souhaite.
Vous allez aussi devoir faire des concessions pour qu'on arrive à y arriver. Je suis persuadé qu'on peut le faire.
Conviction ou méthode couée, l'hypothèse d'un accord trouvé en commission mixte paritaire, susceptible ensuite d'être voté par une majorité à l'Assemblée, paraît quand même relever à ce stade plus du rêve gouvernemental que de la réalité.
Merci à vous, Rosalie Lafarge, au Palais du Luxembourg à Paris. Il faut dire que les comptes de l'État rougeoient et qu'une course contre la montre s'impose cette fois aux députés. Ce lundi, non sans cristalliser les critiques, il s'agit du projet de loi olympique qui revient aujourd'hui devant l'Assemblée nationale pour y être voté. Le texte doit permettre aux organisateurs de sécuriser le budget des JO d'hiver qui doivent se dérouler dans les Alpes en 2030. Il doit permettre également de lancer les travaux des nouvelles infrastructures car il contient de nombreuses dérogations au droit français. Bref, autant de raisons pour lesquelles le groupe LFI et les écologistes déposeront une motion de rejet. Les précisions d'Annabelle Grelier.
Cette loi olympique autorise des assouplissements au cadre réglementaire en termes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, en limitant la possibilité de recours, en accélérant les expropriations ou encore en exemptant de la loi ZAN, zéro artificialisation nette, les futures constructions des Jeux olympiques. Sur le volet financier, elle contient également la garantie de l'État et des régions organisatrices. Si pour la ministre des Sports, Marina Ferrari, il y a urgence à adopter le texte, car avait-elle prévenu devant les sénateurs, plus le temps passe et plus cela va nous coûter cher. A contrario, pour le député LFI, Jean-François Coulhomme, il serait plus raisonnable de tout arrêter.
Ce n'est pas les Jeux Olympiques qui financent les Jeux Olympiques, c'est l'argent public en réalité, puisque nous estimons que ces JO 2030 coûteront au bas mot aux contribuables et aux collectivités locales et territoriales plus de 2 milliards d'euros. Où va-t-on les trouver, sachant qu'on vient déjà de couper plus de 300 millions d'euros du programme sport et vie associative. C'est au détriment du sport populaire, du quotidien, pour un événement qui concerne moins de 8% de la population. Et puis ensuite, il y a la prédation sur l'eau. Dans nos territoires savoyards, on a un certain nombre de communes qui désormais doivent être en été ravitaillées par des camions-citernes en eau potable. Et là, on va préempter l'eau potable pour en faire de la neige artificielle qui n'a qu'une seule vocation, c'est de fondre.
Le groupe LFI et les écologistes ont d'ores et déjà annoncé qu'ils voteraient contre cette loi olympique. Un vote qui intervient une semaine après la démission de la direction des opérations du comité d'organisation des JO 2030 et l'annonce du retrait des réunions budgétaires de préparation des Jeux olympiques d'Hervé Guémard, le président du conseil départemental de Savoie. Il se dit désireux de ne pas engager davantage d'argent public.
Les enjeux budgétaires et leur compte à rebours obligent, on l'entend, le gouvernement, tandis qu'il est à même de remettre au lendemain une consultation de ne pas s'exposer à un échec. Ainsi, a-t-il abandonné l'idée de sonder la population calédonienne sur l'accord de Bougival le 15 mars prochain ? Cette consultation avait été annoncée par la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, le 14 novembre, à l'issue d'un déplacement sur place. Un projet de loi, pour l'organiser, devait être déposé en Conseil des ministres mercredi, mais de nombreux responsables politiques en Nouvelle-Calédonie comme en métropole mettaient en garde le gouvernement et lui déconseillaient de lancer son projet. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Mathieu.
Et finalement, le gouvernement a reculé.
Oui, puisque ce projet de loi a été retiré de l'ordre du jour du Conseil des ministres prévu mercredi. À l'origine de cette consultation, il y a l'accord de Bougival, signé mi-juillet, quand Manuel Valls était encore ministre des Outre-mer. Cet accord prévoyait la création d'un État calédonien et d'une nationalité calédonienne, tout en maintenant le lien avec la France. Il devait donner lieu à un projet de loi constitutionnel que le Parlement français devait examiner et adopter dans les mois qui viennent, à la suite de quoi la population calédonienne devait être consultée et donner son aval. Tout ça, tout ce processus était dans l'accord de Bougival signé cet été. Mais depuis, l'un des signataires de l'accord, le FLNKS, s'est rétracté. Il refuse sa mise en œuvre et ça bloque tout le processus. La ministre des Outre-mer et derrière elle, le Premier ministre Sébastien Lecornu, ont donc décidé d'inverser le calendrier, d'organiser d'abord une consultation de la population dans l'archipel. Elle était annoncée le 15 mars. Consultation qui, en cas de résultat positif, était susceptible de mettre les indépendantistes du FLNKS devant le fait accompli. Le gouvernement se serait alors prévalu d'une majorité de la population calédonienne en faveur de l'accord de Bougival. Seulement, le FLNKS y a vu un passage en force et il menaçait de boycotter ce scrutin. On se retrouvait potentiellement comme au printemps 2024 lorsque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait tenté de passer en force sur le dégel du corps électoral. Le résultat d'alors furent les émeutes qui ont mis à terre l'économie calédonienne et fait partir 15 000 personnes de l'archipel. Et c'est ce risque qu'ont pointé de nombreux parlementaires français, indiquant au passage que le gouvernement n'aurait pas de majorité pour le projet de loi qu'il devait déposer mercredi en Conseil des ministres. C'est la raison pour laquelle il recule aujourd'hui, ce qui fige une nouvelle fois complètement ce dossier. Pour tenter de débloquer la situation, l'Élysée envisage de faire venir les acteurs calédoniens à Paris mi-janvier. Mais comme on repart de zéro, ou presque, les chances de succès sont extrêmement limitées.
Merci à vous, merci de vos explications. Stéphane Robert, la crise est telle que la ministre de l'Agriculture veille à se montrer au chevet d'une profession qui est prise dans une spirale vertigineuse. Un nouveau foyer de dermatose a en effet été détecté dans l'Aude, alors que tout au nord, dans le Pas-de-Calais, 70 éleveurs ont défilé au volant de leurs tracteurs dans les rues de Boulogne-sur-Mer. Annie Genevard s'est rendue dans l'après-midi à Toulouse pour y défendre sa gestion de la crise, de la dermatose nodulaire contagieuse, gestion critiquée par une partie des agriculteurs et de la classe politique. Elle échange en ce moment même avec les syndicats agricoles et les présidents des chambres d'agriculture de la région, dont Philippe Lacube, qui dirige lui la chambre de l'Ariège. Et voilà dans quelle ambiance il attend des autorités un changement de méthode.
Alors la bièse générale, globalement, on est avec des éleveurs qui ont peur, des éleveurs qui sont tétanisés en allant voir les bêtes chaque matin. J'ai rarement vu telle peur et telle ambiance dans mon territoire. Et voilà. Et puis vous avez ces mobilisations, et notamment chez nous en rond-point qui est bloqué à Tarascon-sur-Ariège, qui bloque l'accès à Andorre, où là on a des éleveurs d'organisations syndicales, mais aussi des beaucoup d'éleveurs asyndiqués qui sont présents. en attendant ce que va nous dire la ministre. Aujourd'hui, dans la situation, moi personnellement, je pense que l'abattage total ad vitam aeternam, comme il est pratiqué aujourd'hui, me paraît difficile à tenir par rapport à l'opinion publique, par rapport aux éleveurs. Autant, il a été pertinent quand la maladie était circonscrite à un territoire, mais aujourd'hui, avec une telle expansion de la maladie, je vois pas comment on pourra tenir ce protocole. Donc, d'abord, une révision de ce protocole, et après aussi, il va falloir, bien sûr, accompagner les éleveurs de tous ces territoires occitans qui, pendant quelques mois, vont être bloqués sur leurs fermes le temps que les délais impartis liés à la réglementation après vaccination soient levés.
Des propos recueillis par Catherine Pétillon. Il y a quelques minutes, la ministre a renouvelé un propos qu'elle a déjà tenu à Nijenvar, selon laquelle entre 600 000 et 1 million de bovins vont être bientôt vaccinés. Cette déclaration vient juste d'intervenir. L'autre épée de Damoclès, l'autre sombre perspective telle que redoutée par les agriculteurs français, tient en un mot Mercosur, du nom du traité commercial que la présidente de la Commission européenne aimerait paraffer sans tarder, précisément samedi prochain, lors d'un sommet au Brésil. Mais hier soir, Emmanuel Macron a jeté un pavé dans la mare et demandé un report. Le compte n'y est pas pour protéger les agriculteurs français, affirme le gouvernement. À Bruxelles, la demande française n'est pas reçue favorablement. Le Parlement européen se positionnera demain à Strasbourg. Mais c'est jeudi que ça va jouer, lors du sommet européen, jour où aura lieu une manifestation d'agriculteurs. Et ce sont les 27 qui décideront. Dans ce contexte, la position de l'Italie, c'est intéressant, sera décisive, puisqu'on dit maintenant qu'elle s'alignerait sur la position française. À Bruxelles, Pierre Benazé.
La Commission européenne espère toujours, je cite, signer l'accord avec le Mercosur avant la fin de 2025. C'est ce qu'a martelé tout à l'heure le porte-parole d'Ursula von der Leyen. Elle maintient donc apparemment son projet d'aller signer samedi au Brésil lors du sommet du Mercosur. Pour la Commission, cet accord est d'une importance économique, diplomatique et géopolitique cruciale. Économique parce que le secteur agricole a un excédent commercial de 60 à 70 milliards d'euros avec les pays du Mercosur. Géopolitique parce que cet accord démontrera, selon la Commission, qu'un retour est possible vers un ordre mondial basé sur des règles, malgré les perturbations causées par les droits de douane de Donald Trump. Beaucoup plus officieusement, on entend certains ici affirmer que la demande française est uniquement liée à la crise provoquée par la dermatose nodulaire, façon peu amène d'accuser la France de gouverner à vue. Ce qui domine aussi, c'est surtout la surprise de cette demande de dernière minute, car à Bruxelles, la France a réussi à faire apporter des mesures de sauvegarde et des mesures miroirs qui sont autant de garde-fous et qui ont même poussé la Commission à promettre la mise en place de contrôles sur le respect par les produits importés des normes européennes. L'essentiel est maintenant de voir quelle sera l'attitude des 27 gouvernements. On estime pour l'instant que comme la France, l'Autriche, la Pologne, la Hongrie et l'Irlande sont contre l'accord en l'état, et si l'Italie décide effectivement de suivre la France, alors il n'y aura pas de vote en faveur de l'accord du Mercosur.
Pierre Benazé, à Bruxelles. Il est bientôt 18h13, vous écoutez le journal de France Culture. Le comité de soutien à Narges Mohammadi s'inquiète de l'état de santé de la prix Nobel de la paix 2023, qui semble souffrante et a été emmenée à deux reprises à l'hôpital depuis son arrestation violente vendredi dernier en Iran. La militante de 53 ans a été interpellée dans la ville de Mashhad après avoir pris la parole lors d'une cérémonie en hommage à l'avocat Rosrov Ali Kordi, retrouvé mort début décembre. Hier, le ministère palestinien de la Santé déplorait la mort d'un homme abattu dans le sud de la Cisjordanie occupée par l'armée israélienne qui a évoqué une tentative d'attaque au couteau. À la mi-journée, l'on apprenait que 25 immeubles d'habitation du camp de réfugiés de Nour Shams allaient être démolis dans le nord de la Cisjordanie. Une nouvelle opération vient de se terminer dans le nord-est. Une autre est en cours depuis janvier dernier sur un territoire occupé par 500 000 de colons et sous la pression militaire de l'État hébreu. Que fait l'armée israélienne en Cisjordanie? Des territoires jusque-là relativement calmes ont été ciblés. C'est le cas de la région de Toubas, où s'est rendu notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefebvre. C'est le dossier de ce journal.
Sami Bacharat montre d'abord des menottes en plastique qui jonchent le sol.
Ce sont ces menottes souples que les soldats israéliens ont utilisées. On avait les mains attachées dans le dos. On ne pouvait ni bouger, ni se retourner. C'était un moment très difficile à vivre.
Puis le maire de la petite ville de Tamoun se dirige vers l'arrière d'une maison. C'est là, dit-il, qu'il a été interrogé avec une quarantaine d'autres détenus pendant plus de 6 heures. C'était le 26 novembre, il était environ 13 heures.
Ils m'ont emmené ici et m'ont obligé à m'asseoir sur ces pierres. Ils voulaient d'abord savoir ce que j'avais fait depuis le début de la matinée. Ils m'ont ensuite posé des questions sur ma famille, sur mes enfants, ce qu'ils font, leur âge. Ils m'ont dit qu'en tant que maire, il fallait que je dise aux habitants de surveiller leurs enfants, qu'ils ne s'engagent pas dans la politique ou dans des activités militaires. Ils m'ont assuré que, sinon, Tamoun pourrait subir le même sort que Gaza. L'ensemble de l'interrogatoire portait sur le rôle de nos enfants.
À un peu plus de 5 km de là, l'armée a détruit la même semaine une quarantaine de logements dans le camp de réfugiés d'Al-Fara.
Ils ont fait sauter l'appartement avec ce fil et cette télécommande. Un soldat a appuyé sur le bouton et nous avons entendu une grosse explosion.
Le studio du fils de Fateya, 65 ans, n'a désormais plus de fenêtres. Du verre jonche le sol et les murs tiennent à peine debout.
Le soldat n'avait aucune raison de faire tout exploser. Il m'a d'abord demandé si je savais où étaient les armes. Je lui ai répondu que je n'en avais aucune idée, que mon mari et moi étions âgés et que nous vivions seuls. Il a fouillé la maison, il n'a rien trouvé, alors il a décidé de la faire sauter. Je lui ai dit de faire comme il voulait. De toute façon, c'est comme ça que les Israéliens agissent depuis toujours avec les Palestiniens. Nous ne sommes pour eux que des terroristes et des détenteurs d'armes.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un endroit encore sécurisé pour vivre aujourd'hui en Cisjordanie à l'abri des offensives régulières de l'armée israélienne ?
Il n'y a plus d'endroit sûr pour nous.
L'opération Mur de Fer a commencé il y a presque un an dans les camps de réfugiés de Jénine, de Tul Karem et de Nour Shams. Elle n'est toujours pas achevée. L'offensive la plus récente s'est-elle terminée il y a quelques jours et s'est concentrée notamment sur cette région de Toubas qui jusque-là était plutôt épargnée. Son gouverneur, Ahmed Assad.
En apparence, il s'agit d'une opération militaire. Mais en réalité, c'est une opération politique au sens strict du terme. Le Parlement israélien a ouvert la voie à une annexion de la Cisjordanie. Le gouvernorat du Toubas et la vallée du Jourdain sont directement concernés, parce que ces zones représentent un cinquième de la Cisjordanie.
L'armée israélienne a appelé cette intervention opération antiterroriste. Vous, vous dites que c'est une opération pour l'annexion de la Cisjordanie.
Je vais vous le dire en anglais. Ce sont des menteurs.
La région de Toubas et la vallée du Jourdain sont les zones les plus fertiles de Cisjordanie, évidemment les plus convoitées par les colons israéliens. L'armée de l'État hébreu a établi un premier bilan de la récente opération. 6 morts, des dizaines d'arrestations, 30 frappes aériennes, avec pour objectif, dit un de ses porte-parole, d'empêcher, je cite, des terroristes de s'implanter dans la zone.
Que fait l'armée israélienne en Cisjordanie ? Dossier signé Thibault Lefebvre. Les Nations Unies appellent à la libération inconditionnelle d'un nombre estimé à 10 000 personnes détenues arbitrairement en Érythrée, dont des hommes politiques, des journalistes et des étudiants, en espérant voir s'ouvrir une brèche dans ce pays sous la coupe d'Isaias Afwerki qui depuis 30 ans interdit toute élection. Un régime obscurantiste qui vient toutefois de laisser sortir de prison 18 de ses opposants. Les électeurs chiliens ont élu hier le leader d'extrême droite, José Antonio Kast, à la tête du pays, devenant le président le plus à droite depuis la fin de la dictature d'Augusto Pinochet en 1990. L'ultra-conservateur de 59 ans recueille environ 58% des suffrages contre 42% pour Janet Jara, une communiste modérée représentant une vaste coalition de gauche. Son portrait avec Nathanaël Charbonnier.
Cet avocat, ex-député de 59 ans et le benjamin d'une fratrie de 10 enfants, son père né en Allemagne s'est installé au Chili après la Seconde Guerre mondiale et y a fondé une entreprise de charcuterie. Des enquêtes menées par des médias en 2021 ont révélé que ce dernier avait été membre du parti d'Adolf Hitler. Le nouveau président considère la famille sous sa forme traditionnelle et si durant la campagne il a soigneusement évité les sujets sensibles, par le passé il s'est dit opposé à l'avortement même en cas de viol, opposé à la pilule du lendemain, opposé au divorce et au mariage entre personnes de même sexe. En tout cas, pour Gaspar Estrada, politologue, membre de l'unité Sud Global à la London School of Economics, ce nouveau président vient gonfler l'ire trumpiste dans la région.
Sans aucun doute, L'élection de José Antonio Kast au Chili renforce l'arc d'alliance du président américain dans la région. Il y a déjà Javier Milei en Argentine, président Paz en Bolivie, monsieur Noboa en Équateur et désormais José Antonio Kast au Chili. Ils ont chacun des personnalités différentes. Néanmoins, voilà, il y a cette volonté de travailler sur cet agenda insécurité, immigration, criminalité qui est très porteur aujourd'hui en Amérique latine.
Enfin, sur le plan économique, on retrouve aussi chez le président chilien, comme chez Donald Trump, cette volonté de couper dans les dépenses de l'État en supprimant par exemple certains ministères.
Quelques mots de la météo de demain mardi en matinée. Le temps reste perturbé sur le sud-est avec des pluies sur l'ensemble de la région. Pluies plus régulières et importantes des Cévennes à PACA, au sud de Rhône-Alpes jusqu'aux Alpes du Sud où il neige à partir de 1400 à 1600 mètres d'altitude. D'ailleurs, temps sec et assez lumineux. Ce journal a été préparé avec Alison Vicrobeck à la technique Jean-Guy Limège.